Des grands champions, on connaît précisément leur carrière, leurs exploits, leurs records, mais pas vraiment l'autre côté de leur médaille d'or. Et bien souvent, c'est les petites histoires derrière les athlètes qui leur permettent d'écrire leur grande histoire. En 2000, dans le film En pleine tempête, Georges Clooney dit
« Ça va être mauvais, on va être en pleine dent ».
Et pas de quoi faire peur à notre invité du jour qui a bravé avec brio les plus grosses houles des mers du Sud, champion épisode 7 avec François Gabart.
Comment est-il ?
Un champion du monde.
Champion du monde !
Il est champion olympique !
Champion, mon frère !
Question pour un !
Champion du monde !
Ce qui m'intéresse, ce sont les super champions.
Salut François, est-ce qu'on peut se tutoyer déjà ?
Allez, on va se tutoyer, ça sera plus simple, je pense.
Ouais, ça sera plus simple. On rappelle donc que tu es un sportif hors norme, navigateur. En 2013, tu as remporté la plus prestigieuse de toutes les courses à la voile, le Vendée Globe, Tour du Monde en solitaire, avec en plus un nouveau record en 78 jours, c'est ça ?
Ouais, je crois que c'est bien ça, ouais. 78 ouais. jours. Je me souviens plus trop du temps parce qu'en fait, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que quand on fait une course, le temps et le record, enfin, on s'en moque un peu. Le seul objectif, c'est d'arriver avant le deuxième.
En premier, ouais.
Et ce que j'avais réussi à faire, et ça, j'en suis très, très fier.
On va commencer par le début. J'imagine que tous les navigateurs ont forcément grandi près de la mer.
Pas tant que ça. Alors, moi, je suis né en Charente. J'ai grandi dans le cognac, c'est là, dans les vignes. On fait du cognac. Autour de la maison de mes parents, là où j'ai grandi. Mes parents, en fait, faisaient de la voile en croisière. Donc, depuis que je suis tout petit, voilà, mes parents ont toujours...
Oui, ils sont passionnés, eux, qui t'ont transmis le
voilà,
truc.
En vacances, on partait souvent en bateau. On avait la chance, justement, de pas être très, très loin de la mer. Et après, moi, quand j'ai grandi... Donc, on a fait un... J'en parle, parce que c'est vrai que c'est difficile de ne pas en parler dans ma jeunesse. On a vécu un an sur un bateau avec mes parents et mes sœurs.
Ouais, quand t'es allé aux Bahamas, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, pour une année sabbatique, mes parents ont pris une année sabbatique.
T'avais quel âge, là ?
Moi, j'avais 6 ans au départ. Et donc, on a vécu pendant un an à 5 sur un bateau.
Et comment, du coup, t'arrives à faire ça ? C'est toi, jeune, qui dis « J'adore ça, je veux aller dans un club et tout ».
Ouais, retour de ce voyage. Donc, tu vois, j'ai 7 ans. C'est là où, quelque part, tu commences peut-être à te positionner un peu sur certains sports. Ouais. Je commence à faire de l'optimiste. Et puis, en fait, j'accroche assez vite. J'aime ça tout de suite. Je fais de la compétition assez rapidement. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'en plus... Si tu commences à faire de l'optimiste alors que tu habites loin de la mer, et ben en fait, tu te retrouves assez vite limité. Donc, j'ai club de voile d'Angoulême, pour ceux qui y voient, en passant sur la National 10, c'est une espèce de grande flaque. Et quand je dis ça, c'est absolument pas péjoratif. J'ai beaucoup de bons souvenirs dans cette belle grande flaque, mais ça n'empêche que c'est quand même pas très, très grand. Ouais. Donc, tu es assez limité quand même dans ta pratique. Et donc, assez rapidement, si tu veux continuer à faire de l'optimiste, tu vas aller à La Rochelle, tu vas faire de la compétition en fait. Et c'est en fait, finalement, c'est à la fin de mes études, où là, comme normalement, on se pose la question de quel métier on va faire. C'est à peu près aussi bête que ça. Et c'est là où je vais basculer dans la course au large.
Parce qu'avant, j'ai vu que, adolescent, tu voulais aussi devenir météorologue.
Depuis que je suis tout petit, j'ai une...
T'es fan de
passion. Alain Gilles Lopéfé. J'adore les. En fait, c'est un domaine des sciences qui me passionne. J'adore ça. J'adore regarder les nuages. En fait, je trouve qu'il y a un petit côté divin que je trouve génial. En fait, c'est d'essayer de prévoir l'avenir en regardant le ciel, en essayant de comprendre comment ça fonctionne.
Ça te sert dans la voile, du coup, en plus, non ?
Énormément. C'est un domaine de compétences des marins qui est super important. Et c'est vrai que depuis que je suis tout petit, ça me passionne de juste en regardant le ciel, se dire il va pleuvoir, ou va y avoir du vent, il va pas y avoir de vent, ou le vent va tourner à droite ou à gauche, ce qui permet éventuellement de gagner des régates quand tu fais de l'optimiste et que tu as 10 ans, et éventuellement de gagner des grandes courses quand tu en as 30 ou 35 ou 60 et que tu fais de la course au large.
Du coup, est-ce que tu avais des modèles plus jeunes, du coup, autres, donc, je sais pas, Kersauzon ou Alain Gilles
Lopéfé ? Ouais, j'en avais un paquet de modèles.
C'est qui les mecs que tu avais en poster dans ta chambre, genre t'avais...
Je me souviens même plus, c'est des... Mais c'est des... à chaque fois, c'était, tu vois, alors justement, souvenir de chambre, j'avais un... Alors, j'allais dire un mec qui faisait de la planche à voile, mais je sais même pas qui c'était. Je me souviens d'avoir un beau poster de planche à voile, alors j'en ai jamais vraiment beaucoup fait. J'en ai fait un petit peu comme ça de temps en temps.
Il y avait Robert Territeo dans cette
époque. Ouais, à l'époque, il y avait des Dunker Beck, Territeo.
Et ado, du coup, t'étais quoi ? T'étais plutôt sage ? Ou t'étais plutôt faire des conneries, faire la fête ? Ou t'étais plutôt un garçon sage ?
En fait, d'un point de vue assez technique, vu que j'ai quand même fait souvent, assez rapidement, de la compète. Ouais. Bah on se retrouvait quand même assez souvent le week-end, tu vois, quand t'es ado et que t'as les soirées, les machins, ouais, etc. Bah, les soirées, moi, je les faisais avec les copains de l'opti. De la voile, ouais. Et c'était quand même, je pense, on faisait des conneries comme tous les enfants font des conneries. Mais néanmoins, on était dans un contexte qui était compétition déjà. Ouais. Donc on savait que le lendemain, on avait déjà une régate, etc. Donc je pense que ça nous tempérait un peu.
Dans l'imaginaire, l'univers des marins, tu te dis que c'est des... Ils ont un bon lever de coude, quoi, ça renvoie, tu vois.
Ouais, bon, on a... Après, je pense que c'est peut-être aussi une perception.
C'est les vieux marins.
Ouais, je sais pas.
Pour moi, les vieux marins, ils savent pas nager, ils picolent, tu vois. C'est vraiment le...
Tu vois, moi, je sais à peine nager. Je sais nager.
C'est très
mais...
bizarre, ça.
Ouais, mais je suis pas à l'aise dans l'eau, c'est vrai que je...
C'est très bizarre, quoi. Tous les marins, ils disent...
Je pense que c'est peut-être une question de survie, tu vois. C'est à un moment, si t'es trop à l'aise dans l'eau, bah tu risques de tomber dedans. Donc, ouais. Non, t'essayes de te débrouiller pour rester sur le bateau. Et ce qui était juste dingue, par contre, c'est... Voilà, moi, à 14 ans, j'allais pas à la fête de 3e, là, du collège, à l'anniversaire de je sais pas qui. Par contre, j'allais avec les copains de la voile, et par contre, on allait à l'autre bout de la France, voire à l'autre bout de l'Europe, ce qui est quand même un truc qui est hyper excitant. En même temps, tu vois, tu te retrouves avec des gamins de 13 ou 14 ans dans un camion,
et t'avais pas
avec un adulte qui était pas forcément tes parents, mais tu vois, avec un entraîneur qui t'amenait, je me souviens, être allé en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, on traversait l'Europe. Enfin, tu vois, on avait quand même je trouve une certaine excitation dans ce qu'on faisait. Et c'est vrai que c'est une vraie école de la vie, quelque part à côté, parce qu'on est ensemble dans un monde un petit peu décalé et qu'on vit des expériences assez dingues.
Quand tu étais, du coup, première fois donc, que tu remportes en plus le Vendée Globe, tu navigues en solitaire, donc t'es, voilà, 80 jours, ça fait quoi? Ça fait 2 mois et demi, quoi.
Ouais,
tout seul sur un bateau. J'imagine qu'il y a des moments où... Parce que t'avais quel âge? T'avais
29 ans.
Wow.
Premier Vendée, ouais.
Il y a des moments, forcément, j'imagine, où, je sais pas, où t'as peur, où tu doutes, où tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, il doit y avoir des moments, mais on se rend même pas compte. T'as eu des moments où vraiment tu...
Oui et non, en fait. Tu peux pas dire, tu fais un Vendée, tu peux pas être indifférent à ça. Ouais. C'est quand même un truc de dingue.
Ouais.
Tu pars sur un Vendée Globe, tu sais pas où tu vas, et quand même une espèce de grand vide devant toi que je trouve hyper excitant et qui en même temps qui est effrayant. Mais ce truc-là, c'est quand même des émotions très très fortes.
T'as pas de souvenir, je sais pas, d'une tempête, d'un truc, vraiment, tu te dis...
J'ai le souvenir de... Enfin, en fait, j'ai une...
Plein de souvenirs.
Plein de souvenirs, quoi. Tu vois, quand je te parle du départ, il y a quand même ce truc du départ qui est...
À le départ, ouais.
Qui est fou. Dingue. C'est fou. Il y a une espèce de force, parce qu'il y a déjà énormément de personnes, il y a du public. Alors, c'est pour le coup... On n'est pas habitué à ça, nous, marins. Quand je fais de l'optimiste, tu n'es pas habitué à avoir 100 000 ou 200 000 personnes qui sont là. Même si tu fais du haut niveau en voile, même si tu es champion du monde, etc., quand il y a 5 personnes qui sont sur le quai pour t'applaudir à l'arrivée, c'est le grand maximum. Donc, alors ça, tu n'es absolument pas entraîné à ça. Donc, il y a quand même cette espèce de présence humaine qui te porte et qui est extraordinaire. Et tu as quand même l'impression d'espèce de grand saut dans le vide où tu t'es préparé à ça, c'est pas complètement l'inconnu, mais il y a une petite part de il y a une espèce de vide devant toi qui était hyper excitant, encore une fois. Enfin, j'avais envie de vivre ça, et par contre j'ai pas été déçu par l'intensité des émotions que tu vas vivre tout au long d'un Vendée. Ça peut paraître étonnant, mais je me sentais pas seul, en tout cas
pas seul.
Physiquement isolé. Oui, ça c'est sûr. Et puis à certains endroits du monde, sur un Vendée Globe, sur un tour du monde de manière générale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à un moment, on est quand même aux antipodes, à l'autre bout du monde, qu'il n'y a pas grand monde aux antipodes. Là, d'une manière assez objective, il n'y a personne. Enfin, c'est avéré. Et ce qui amène quand même quelques problématiques en termes de sécurité. Si tu te fais mal, en France, et même dans beaucoup d'endroits dans le monde, et même au large, au milieu du golfe de Gascogne ou à l'Atlantique, il y a quand même une proximité potentielle d'assistance
en cas de galère,
qui arrive plus ou moins facilement. Enfin, je dis pas que... Mais là, tu ressens vraiment qu'à un moment donné, tu sais très bien que si tu as un problème, de toute façon, il y aura personne avant plusieurs jours ou plusieurs semaines pour venir te chercher. Donc, tu le sais, ça, quand même. Et ça met une petite ambiance, quoi, tu vois. mais tu navigues aussi en fonction de ça. Et tu t'es préparé à ça. C'est, on t'y va pas comme ça sans préparation. Mais c'est des belles expériences.
On parle souvent aussi des... Enfin, alors, tu me dis que donc, tu te sens quand même entouré, mais malgré tout, tu es seul. Et on dit souvent, il y a beaucoup de navigateurs qui disent qu'ils ont même des hallucinations au bout d'un moment, à force d'être si longtemps seul.
Alors, c'est pas la solitude qui amène les hallucinations,
ouais.
C'est le manque de sommeil.
Ah, il y a ça aussi, ouais.
Ouais, ouais, ça c'est clairement le manque de sommeil. Et d'ailleurs, donc les hallucinations, j'en ai eu, mais plutôt d'ailleurs sur le circuit Figaro dont je parlais, c'est le circuit Figaro, souvent c'est des étapes plus courtes. Fait des étapes qui vont durer 3-4 jours, où là on va vraiment pas dormir. En fait. Ouais, c'est quelques minutes par-ci par-là, et on va très très loin dans la fatigue, dans la privation de sommeil, et on. Bah, voilà, les figaristes sont quand même régulièrement...
C'est quoi les hallucinations?
Les hallucinations, ça dépend un peu des personnes. Ouais, moi, c'est d'abord les hallucinations sonores.
Ouais.
Et ça, je pense que n'importe qui qui s'enchaîne, même une nuit blanche, etc., assez rapidement, tu as des repères sensoriels qui changent. Ou voir des hallucinations visuelles. Quoi.
Ouais, t'as vu des trucs?
Ouais, j'ai presque envie de dire tout le monde a... T'es un peu fatigué, t'es dans le noir. Enfin, je veux dire, tu peux rapidement, tu vois, une vague qui déferle, une tache blanche, entre un bateau et une vague.
Ouais.
Et à un moment donné, tu sais pas trop. Puis il y a des moments où tu as vraiment l'impression de voir pendant plusieurs secondes, voire minutes, un bateau, et parce que c'est ton cerveau qui l'a créé.
Ouais.
Faut comprendre, c'est que l'hallucination, c'est tu ne dors pas, donc tu ne rêves pas, et le rêve est juste structurellement important. Quoi. On ne peut pas, l'être humain, on peut essayer de se priver de sommeil, on peut essayer de ne pas manger, ne pas boire pendant plusieurs jours. Il y a des limites un peu biologiques et le rêve est important. On est obligé de rêver. Et si tu ne dors pas, le corps est fatigué, mais c'est surtout le cerveau qui dit « Attends, moi j'ai besoin de rêver quelques minutes ou quelques heures par jour. Donc si tu ne veux, si tu veux pas dormir, eh ben, écoute, tu vas rêver éveillé. » Donc sur un Vendée Globe, faut aller un peu dans le rouge, hein, parce que ça se gagne pas tout seul. Mais il faut arriver à trouver un état de fatigue qui te permet quand même de tenir dans la durée pour essayer de rester performant dans la durée.
Tu dors quoi? Tu dors, c'est quoi? C'est par jour? C'est quoi? C'est 4-5 heures?
Sur le... Non, moins...
Moins de...
3 heures. En fait, sur le dernier tour du monde que j'ai fait, donc en multicoque, à chaque fois que j'allais dormir, donc j'appuyais sur un bouton, et quand je me réveillais, j'appuyais sur un bouton, ce qui me permettait d'enregistrer tout ça. Et j'ai dormi en moyenne 3 heures, 9 minutes... Ah ouais. Sur 42 jours.
Et quand t'es rentré, du coup, t'as envie de faire la fête quand t'as fait 2 mois et demi ou tu veux juste dormir
Ah bah, tout de suite, tu veux juste dormir.
Ouais.
Ouais, parce que en plus, j'y suis quand même allé. En tout cas, le premier Vendée, je suis arrivé.
Mort,
parce que je voulais vraiment rien lâcher. Je voulais vraiment tout donner jusqu'au bout. Donc, je suis arrivé, j'étais épuisé au bout du bout. Et donc, la première chose, t'as juste envie de dormir, de te reposer. Donc, j'aime bien ces expériences-là, mais je fais pas de la voile pour fuir. Ce qui se passe à terre. Donc quelque part, tu es super content de retrouver la terre, de retrouver les gens que t'aimes, de retrouver le confort de la vie terrestre, hein, parce que faut quand même c'est quand même super agréable de prendre une douche, c'est super agréable de manger quelque chose de frais, c'est super agréable d'avoir ce confort de la vie terrestre de retrouver plein de gens, c'est quand même super sympa.
Mais cool, alors on arrive à la fin de l'entretien et pour finir, on va faire ton panthéon personnel, ton livre culte. Ouais.
Livre culte, La Désirade de Jean-François Degnaud.
Oh,
ça fait un sacré paquet de temps que je ne l'ai pas lu ce livre, mais c'est marrant parce que c'est un peu une histoire de pirate, flibusterie, donc c'est un peu de ça, mais j'aime bien, et j'aime beaucoup Jean-François Degnaud, mais en général, il a écrit plein de beaux livres, il est assez proche du milieu de la mer.
Ce que j'allais dire, c'est toujours un peu dans les bateaux.
Ouais, c'est ça. Donc il a fait beaucoup de politique, il a fait plein de choses, mais il est passionné de mer. Mais ouais, j'aime bien ce livre. C'est assez enfantin dans le sens où c'est quand même une histoire de flipsterie, quoi. Enfin, ça pourrait être une bande dessinée, quoi. Ouais. Donc j'aime bien ce livre. Ouais.
Ton film culte.
Voilà, ça va être un grand classique, mais mine de rien, ça reste quand même indéboulonnable pour moi. C'est Le Grand Bleu.
Ouais.
De Besson. Pourtant, je te disais, je suis pas à l'aise dans l'eau, donc c'est quelque chose qui me fascine et qui m'attire d'aller sous l'eau. Mais je suis absolument incompétent et pas dans mon schéma. Par contre, j'adore ce film toute la poésie, tout la musique,
la BO,
les images. Et mine de rien, cet univers qui est quand même un petit peu justement en compétition. Enfin, tu vois, il y a cet univers qui dans certains aspects, se rapproche un petit peu.
Parce que c'est aussi un peu un truc solitaire.
Ouais, carrément. Non, il y a plein de choses. Alors, il y a plein de choses qui sont pas forcément très très souriantes dans le film aussi.
Ouais.
Hein, je cautionne pas quelque part tout, mais c'est un beau film. Évidemment, et je l'ai regardé plein de fois. Et je pense que ça fait quelques années, peut-être, je l'ai pas vu, mais Mais à chaque fois, je trouve qu'il il vieillit pas.
Ouais, il est super.
Alors que c'est un très vieux film,
d'ailleurs,
finalement.
Pendant les traversées, tu sais, t'as le temps de regarder ou pas du tout? En fait, c'était toujours 100%.
Moi, j'ai jamais regardé.
T'as jamais regardé
jamais
même
lu
une série
un livre,
ou
un regardé un rien
ouais,
du tout.
T'as pas le temps. Ouais.
C'est. Mais par contre, il y a d'autres
petits moments
marins...
quand t'as de libre, tu dors. Quoi,
bah, exactement. Ouais. J'ai jamais réussi à prendre le temps et mais parce que voilà, c'est ma façon de naviguer. Et je veux naviguer à fond. Mais il y a des marins qui ont des résultats, enfin qui ont gagné des Vendée Globe, etc., et qui ont arrivé à prendre le temps pour lire un livre. Et je sais pas comment ils font. Moi, si jamais j'ai rien à faire, je dors, quoi. C'est tout. Par contre, j'ai eu la chance, tout petit, de passer du temps en mer. J'ai à nouveau cette chance aussi plus récemment où je prends du temps en famille justement pour faire de la croisière et vivre en mer, en bateau. Et quand t'es en bateau, c'est quand même en croisière, pas en course, mais c'est des moments qui sont super chouettes pour lire, cuisiner, enfin tu vois, faire des choses que dans notre vie et dans ma vie à terre qui va 100 à l'heure où tu perds un peu ce temps-là. Quoi. J'aime bien cette ambiance sur un bateau où t'as un rapport avec le temps qui est différent.
Ouais. Ton acteur fétiche?
Non, acteur, film, je pensais, alors tu vois, je vais donner j'aime beaucoup tous les films de Clapiche.
Ouais.
Tu vois, j'ai cité Le Grand Bleu et j'aime beaucoup Besson là dans les années 80-90, dans les années 2000, tous les films de Clapiche et tous les acteurs de films de Clapiche. J'adore toutes les séries.
Ouais.
Les...
Duris.
Ouais, tout ça, j'aime beaucoup, toute cette génération-là.
Ok, une chanson que t'adores? Moi j'ai une réponse là, mais.
Comment?
Moi j'ai une réponse.
T'as une réponse, ouais. J'en ai beaucoup parlé, mais c'est vrai que ça reste un artiste que j'adore, c'est Ben Mazuet.
Ouais.
Qui j'aime
que tu connais bien,
tout
non,
ce qu'il fait, ouais, que je connais un petit peu bien, peut-être pas, mais en tout cas j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois et voilà, c'est un artiste que j'adore parce que j'écoute beaucoup de musique sur le genre. Je suis absolument nul en musique, j'ai aucun sens du rythme, j'ai jamais joué un instrument, enfin vraiment je suis complètement incompétent dans ce domaine-là.
Mais quand tu navigues, tu mets de la musique.
Par contre, j'aime beaucoup écouter de la musique, même à terre. Je travaille avec de la musique, enfin j'écoute quasiment tout le temps de la musique et sur l'eau j'écoute beaucoup de musique et dont Ben Mazuet énormément. Ouais.
Et c'est quoi les autres alors du coup sur le bateau? Tu peux
tu sais maintenant là, on a cette chance d'avoir accès à
tous les
tellement de musique. Alors, on n'est pas forcément connecté sur internet, mais c'est tellement facile de...
Oui, mais tu peux les télécharger. Télécharger
en avance. Ouais. J'ai des playlists qui durent des heures. J'avais des gigas de musique, donc je pouvais écouter quasiment 78 jours. Tu pouvais écouter 78 jours de musique différente.
Et c'est en fonction de s'il y a une tempête, tu mets Metallica et c'est cool.
Ça change, mais des fois, tu peux être surpris à écouter du Mozart dans la tempête et du hard rock dans un moment calme parce que tu as besoin d'énergie. C'est assez surprenant. J'écoute vraiment des choses très, très différentes. Avec un truc qui est assez drôle, j'écoute pas mal de musique française.
Ouais.
Et je me rends compte que j'écoute encore plus de la musique française.
Quand t'es loin.
Plus à texte, tu vois, à parole. Ouais. Tu vois, du Ben Mazuet qui a des textes très, paroles. Très forts. Mais je pense à du Brassens, à du Brel, à des gens qui ont des textes qui sont très, très beaux. Encore plus quand je suis tout seul, loin. Et je pense parce que vu que tu parles pas avec des gens...
Ouais.
Tu commences des fois à réfléchir un peu à voix haute. Tu as besoin en fait d'échanger.
Ouais.
Et donc, du coup, j'écoute plus facilement de la musique à texte. À l'opposé, quand je suis à terre, par exemple, où je disais que j'écoute beaucoup de musique quand je travaille, si je dois écrire un mail, par exemple, écrire quelque chose, essayer de trouver des mots pour faire passer une idée, je vais peut-être plus écouter de la musique anglaise où je ne suis pas trop les paroles. Tu vois, t'écoutes
exactement,
ça avec un peu de distance.
Qui t'occupe moins le cerveau.
Que quelque
en fait.
Chose très. Parler.
Ou tu vas faire attention au sens,
ouais,
et tout ça. Quoi.
Voilà, tu sens. Donc, j'écoute pas mal de. Un peu de tout et c'est très varié. Et j'aime bien découvrir des choses.
Tu pourrais écouter des podcasts en soi, même si t'as besoin.
Ah oui, alors. Et du coup, j'écoute. J'ai beaucoup écouté de podcasts. Alors, ça, c'est pareil, je pense, en 2012-2013, je m'en rends pas compte.
C'est
le
début
du podcast.
Mais en vrai, les moments calmes et tout, si t'as besoin.
Et parce que ça t'accompagne, en fait. Et ça ne t'empêche pas, par exemple, de régler un bateau ou de bricoler. Il y a plein de choses que tu peux faire sur le bateau
en écoutant comme quand t'es en voiture en fait, quoi, comme
exactement.
Un long voyage en voiture.
C'est alors, peut-être un il y a des moments où faut quand même se concentrer sur certaines choses, donc mais il y a sur une journée de 24 heures où tu dors pas beaucoup, il y a quand même il reste quasiment plus de 20 heures où t'es éveillé, et en effet sur ces plus de 20 heures où t'es éveillé, il y a au moins la moitié où tu peux écouter des podcasts ou écouter de la musique sans souci.
Et bah, merci beaucoup François, j'espère que tu vas pouvoir dormir un peu plus dans les années qui viennent. Même
aussi.
Si non, en fait, non, pas tout de suite, plus tard. Comme ça, ça veut dire que tu auras continué longtemps, exactement. Tu dormiras plus tard. Bah, merci beaucoup.
Ça marche, merci beaucoup, c'était super.
Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et mettez des petites étoiles si ça vous a plu, comme ça on sera mieux référencés et on pourra dépasser le Moscato Show au classement des podcasts. Et ça, c'est la classe. Merci d'avoir écouté Champion, à la prochaine, salut.
It's Owen Murph here, and we want to talk about the good people at Now who are sponsoring this episode and have some exciting news to tell us about the return of the Formula One season, which kicks off on March 2nd.
Oh, well, this sounds great, but where do I catch all of this high-octane action?
Murph, you can stream all the F1 Sky Sports action without a contract for just €20 a month for 12 months with a Now Sports membership. If Formula One's your game, then Now is the name.
You're really revving my engine, McDevitt.
Ah, pit stop it with all the puns, Murph.